Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. Le chef de la diplomatie allemande, Guido Westerwelle, est venu à Prague pour célébrer les 20 ans de la déclaration tchéco-allemande. Les habitants des communes des régions de Náchod et de Trutnov protestent contre l'extraction de gaz de schiste. Et les consommateurs tchèques font face à une envolée des prix de l'œuf de poule. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, a effectué une visite à Prague. La crise de la dette dans la zone euro et les relations bilatérales ont été au cœur de ses entretiens avec les dirigeants tchèques. Du fait de la crise de la dette, le projet européen est en train de traverser la crise de confiance la plus grave dans son histoire, a déclaré le chef de la diplomatie allemande à Prague, en ajoutant que l'Union européenne doit renouveler cette confiance tout en faisant face aux préjugés qu'elle croyait être déjà révolus. Ce mardi, Guido Westerwelle assistait au rassemblement organisé au Sénat à l'occasion du 20e anniversaire de la signature de la déclaration tchéco-allemande. Selon le ministre allemand des Affaires étrangères, c'est justement l'Union européenne qui a contribué au rapprochement entre la République tchèque et l'Allemagne et qui a résolu la question de la place de l'Allemagne en Europe. Environ 400 personnes ont protesté ce mardi dans la ville de Náchod, en Bohême de l'Est, contre le projet des sondages qui pourrait aboutir à l'extraction du gaz de schiste dans leur région. Une réunion de délégués des communes de la région, des représentants de la société minière engagée dans ce projet et du ministère de l'Environnement s'est également tenue ce mardi à Náchod. À l'issue de cette rencontre, plusieurs dizaines de maires des communes des régions de Náchod et de Trutnov ont signé un document où ils s'opposent au projet de la société américaine Basgas Energia Tchèque. Celle-ci envisage de procéder en Bohême de l'Est à des sondages sur plus de 700 km². Le ministère de l'Environnement a donné son aval à ce projet. Plusieurs communes avaient déjà protesté contre ce projet qu'elles considèrent comme nocif pour l'environnement. Les commerçants tchèques font face à une pénurie d'œufs. La situation s'annonce difficile dans presque tous les pays de l'Union européenne et serait la conséquence de l'entrée en vigueur de la directive européenne sur le bien-être des poules d'élevage rendue obligatoire au 1er janvier 2012, mais qui n'a pas encore été suivie par l'ensemble des producteurs. Ce retard dans l'adaptation aux nouvelles normes imposées aux producteurs pour limiter la maltraitance des poules a entraîné une chute de la production et une forte hausse des prix. Dans les chaînes commerciales en République tchèque, le prix de l'œuf de poule a doublé depuis le début de l'année pour se situer actuellement à presque 5 couronnes. La production tchèque pourrait augmenter progressivement à partir du mois d'avril. L'acteur français Gérard Depardieu est en tournage dans la région de Plzeň en République tchèque. Il incarne Ursus dans l'adaptation du roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. Réalisé par Jean-Pierre Améris, le film met également en scène Emmanuel Seigné ou l'acteur québécois Marc-André Grondin. Ce mardi, Gérard Depardieu, un des acteurs français les plus connus en République tchèque, est arrivé au monastère de Hotěšov, près de Plzeň, en Bohême de l'Ouest. Le tournage se poursuivra ensuite dans d'autres endroits de la région. Côté météo, mercredi, le temps en République tchèque sera beau et ensoleillé. Les températures seront comprises entre 3 et 7 degrés pour les maximales. Des nuages et des averses sont prévus à partir de jeudi. Nous fêterons mercredi les Tomáš. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková, la suite du programme avec Paul Bauer.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Magdalena Hrozinková pour ce bulletin d'information et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire d'aujourd'hui, Vít Bártal, l'homme fort du parti Affaires publiques, la plus petite des trois formations de la coalition gouvernementale, est présenté devant la justice pour une affaire de corruption interne à son parti. Culture et révolte mondiale au programme du festival de films courts One World. Et dans la deuxième partie de notre émission, nous vous proposons dans la rubrique Panorama un entretien avec l'ambassadeur de la République tchèque en France, Marie Chatardová. Un des procès les plus suivis de l'année a été ouvert lundi à Prague. Personnage parmi les plus médiatiques, mais aussi parmi les plus controversés de la scène politique tchèque de ces deux dernières années, Vít Bártal comparaît devant la justice. Homme fort des affaires publiques, la plus petite des trois formations de la coalition gouvernementale, Vít Bártal est mis en cause dans une affaire de corruption interne à son parti. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
À la tête d'un parti de centre-droit sorti de l'ombre quelques mois seulement avant les dernières législatives en mai 2010, Vít Bártá, ancien directeur d'une société privée de surveillance, avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille lors de la campagne électorale qui avait finalement permis au parti Affaires publiques d'accéder au gouvernement. Quelques mois plus tard, en avril 2011, le même Vít Bártá était néanmoins déjà contraint de démissionner de ses fonctions de ministre des Transports. Celui qui est devenu depuis président du groupe parlementaire des affaires publiques était accusé d'avoir versé des pots de vin à deux de ses députés, concrètement Cristina Cocchi et Jaroslav Škarka, en échange de leur loyauté. À la différence de Cristina Cocchi, qui a déposé son enveloppe chez une avocate, Jaroslav Škarka est lui accusé d'avoir accepté les 170 000 couronnes, soit 6 800 euros, alors remis par son supérieur. Autant d'accusations balayées d'un revers de la main par Vít Bártá, qui affirme qu'il ne s'agissait que de prêts d'ordre privé à des collègues, une pratique courante selon lui, Vít Bártá.
Pour l'instant, les quelques fuites du dossier sont la preuve qu'il faut absolument que cette affaire passe devant la justice pour démontrer qu'elle est un coup monté de toutes pièces. Tout le week-end passé, on a entendu parler d'un enregistrement important dont dispose M. Škarka. Mais je peux vous assurer que cet enregistrement n'est pas aussi important que l'audition de M. Škarka lui-même qui affirme que ce qu'il a fait, il l'a fait pour restructurer la coalition afin de pouvoir gouverner sans les affaires publiques.
En d'autres termes, Vít Bártá, qui risque jusqu'à 6 ans de prison s'il est reconnu coupable, clame son innocence et rejette la faute sur ses anciens collègues qu'il accuse de vouloir le discréditer et d'avoir manigancé dans son dos aux dépens des intérêts du parti. Lundi, lors de la première journée du procès, très suivi par les médias et retransmis en direct sur Internet, les deux accusés ont répété leur version des faits, Jaroslav Škarka, qui risque lui une peine de 3 ans, assurant ne pas avoir voulu accepter le dessous de table. Mais au-delà même de l'affaire, ce sont les pratiques au sein de l'un des trois partis de la coalition, pratiques de corruption donc, mais aussi d'écoutes secrètes, d'espionnage, de chantage ou encore d'intimidation qui intriguent, comme le confirme David Ondrajka de l'ONG Transparence Internationale.
Toute cette affaire est un mélange de telenovela et de la monstruosité de ce qui se passait au sein des affaires publiques. Je pense que ce procès va nous permettre de lever le voile sur la face cachée de l'un des partis gouvernementaux et de découvrir non seulement son mode de fonctionnement dans les coulisses, mais aussi plus généralement le fonctionnement de la culture politique dans la pratique.
Ce mardi, l'audience s'est poursuivie avec notamment l'interrogatoire de Cristina Cocchi, ancienne présidente du groupe parlementaire des affaires publiques, exclue elle du parti peu après l'éclatement du scandale. Le procès s'achèvera, lui, vendredi.
Du 6 au 15 mars se déroule, comme chaque année à la même période, le festival Jedensviet ou One World. Ce festival de films documentaires sur les droits de l'homme est l'un des grands rendez-vous du grand écran de l'année culturelle tchèque. Pour cette 14e édition, le festival tourne autour du thème des protestations, des troubles et des révoltes dans les sociétés. Plus de détails avec Anna Kubishta.
Depuis ses débuts, il y a 14 ans, le festival One World n'a cessé de grandir et d'élargir ses activités. Conçu au départ par l'ONG Človek v tisni, People in Need, afin de rapprocher le grand public des problèmes liés au respect des droits de l'homme, One World est aujourd'hui un festival qui est présent dans des dizaines de villes de République tchèque, mais aussi hors de ses frontières. Il s'accompagne par ailleurs d'un travail pédagogique au sein des écoles, de même qu'il se veut, depuis cette année, une plateforme de rencontre entre les professionnels du cinéma. Chaque année, un nouveau thème anime le festival, un thème souvent brûlant de l'actualité. Anna Kulhankova est la directrice de One World. Elle détaille le thème 2012, protestation, trouble, révolte.
Nous nous sommes inspirés des événements actuels, de ce qui se passe depuis au moins un an aux quatre coins du monde. Les révolutions ont commencé dans les pays arabes et se sont déplacées de pays en pays. De l'autre côté du monde, comme en Espagne, en Grèce, des mouvements de protestation ont également vu le jour, motivés par d'autres raisons que dans les pays arabes. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas ignorer ces grands bouleversements mondiaux.
Tyto velké jako světové zlomy v programu Jednoho světa ignorovali.
Le festival One World n'entend pas montrer uniquement des films documentaires sur les problèmes sociaux, les failles démocratiques et les dissidences politiques dans de nombreux pays du monde. Le festival entend également toucher les décideurs par ses projections. Comme chaque année depuis 6 ans, One World se déplace mi-mai à Bruxelles et cette année directement là où les choses bougent. Hanna Kulhankova.
Tous les ans, nous projetons à Bruxelles une sélection de ce qui a été montré à Prague. Nous les choisissons de telle façon qu'ils résonnent avec la politique européenne. Nous voulons que ces films soient une source d'inspiration pour les fonctionnaires et les politiques européens. Cette année, nous pouvons montrer ces films au Parlement européen, ce qui est formidable. C'est là que tout se passe. Nous sommes convaincus que la rencontre des acteurs européens et des activistes que nous invitons peut améliorer les choses dans d'autres pays.
Comme tous les ans, le festival One World remet le prix Homo Homini à des activistes ou des défenseurs des droits de l'homme. Cette année, ce prix revient aux médecins syriens qui travaillent clandestinement et au péril de leur vie pour soigner les blessés des manifestations actuelles contre le régime de Bachar el-Assad. De nombreuses sections, compétitives ou pas, proposeront cette année 106 films issus de 44 pays. Une section particulière retracera cette année les 20 ans d'histoire de l'ONG People in Need qui chapeaute le festival. People in Need, c'est notamment un homme, Shimon Panek, celui qui a fait de l'organisation la plus importante ONG d'Europe centrale. Hanna Kulhankova.
Nous nous sommes dit qu'il serait bien de fêter ces 20 ans d'existence dans le cadre du festival One World. Nous avons donc préparé un programme spécial sur le site web de la télévision tchèque. À côté d'un résumé des activités de People in Need sur 20 ans, les spectateurs pourront aussi visionner les films sur l'ONG depuis le début jusqu'à nos jours. On peut voir comment l'ONG est devenue une énorme organisation.
De nombreux films seront donc à voir pendant les 10 jours du festival et pour plus de détails sur le programme, c'est au www.jedensviet.cz.
Marie Chatardova est ambassadeur de République tchèque en France depuis 2010. Les relations franco-tchèques dans l'histoire et à l'heure actuelle, la mission de la représentation officielle de la République tchèque en France, l'agrandissement de la centrale de Temelín pour laquelle la société Areva est en lice, mais aussi la perception de Václav Havel en France, tels sont les nombreux sujets qu'Anna Kubishta a abordés avec Marie Chatardova. On l'écoute.
Panorama.
Panorama. Madame l'ambassadrice de République tchèque, Marie Chatardova, bonjour.
Bonjour.
Je vais commencer tout simplement par vous demander, voilà, vous êtes entrée dans vos fonctions donc en 2010 en France. Alors, est-ce qu'une mission diplomatique dans un pays s'inscrit-elle uniquement dans la continuité ou bien chaque nouvel ambassadeur peut apporter sa petite touche personnelle ?
Vous savez, le travail d'un ambassadeur est plus ou moins défini. Et ce travail dépend naturellement de l'évolution des relations bilatérales et multilatérales. Mais il y a toujours des dossiers à gérer. Et pour autant, chaque ambassadeur a un certain espace pour des initiatives personnelles. Et dans ce domaine, la continuité est évidemment nécessaire, mais chacun a son caractère, son histoire, une façon de gérer les choses. Et je crois que c'est vrai dans la diplomatie comme dans la politique ou dans les entreprises.
Alors vous, personnellement, justement, quels objectifs aviez-vous en arrivant à Paris ?
Le président Masaryk avait une belle formule pour expliquer que la différence entre un grand pays et un pays moins grand, c'est comme entre un homme de petite taille et un homme de grande taille. Son humanité est la même. Et je crois que les gens en France commencent à réaliser l'importance de la République tchèque en termes politiques et aussi économiques. Et mon objectif personnel est de mieux faire connaître la République tchèque. Pour atteindre cet objectif, je lance, par exemple, des journées tchèques. Je soutiens beaucoup aussi la coopération entre les villes, entre les régions. En général, toutes les coopérations sur le terrain, là où des élus des gens de la société civile ou culturelle se rencontrent, créent des liens. Par exemple, au niveau des universités, des petites et moyennes entreprises. Et je suis vraiment ravie quand je reçois une lettre de quelqu'un qui me dit comment tel stage ou tel cycle d'études a été possible grâce à une coopération que j'ai réussi à créer et que cette coopération lui a permis, par exemple, de terminer sa formation avec succès.
Vous avez déjà exercé cette fonction en Suède entre 2002 et 2007. Alors comment est-ce que vous jugez un peu ces deux missions ? En quoi sont-elles similaires ? En quoi sont-elles différentes ? Et puis également, en quoi les deux pays également sont différents par rapport à la tradition des relations entre la République tchèque et chacun de ces deux pays ?
J'apprécie les deux pays, même s'ils sont différents. Les agendas sont aussi différents, de même que la taille des ambassades. Quand vous vous promenez en Suède, qui est un pays magnifique, vous retrouvez un peu partout ce qu'on appelle là-bas des objets déplacés au cours de la guerre de 30 ans. La folie de cette époque aura eu aussi un mérite. Pour les Suédois, les Tchèques sont un peuple de gens cultivés, infiniment civilisés, puisque pratiquement partout vous trouvez quelque chose qui était soi-disant déplacé pendant la guerre de 30 ans. C'est une situation très confortable pour un ambassadeur tchèque en Suède. Tout le monde sait où se trouve Prague et qu'il y a une grande culture à Prague. Mais les Suédois sont très généreux pour les réfugiés. Ils l'ont montré envers mes compatriotes qui fuyaient le régime totalitaire avec la mise en place de programmes spéciaux d'assistance, notamment après 1968. Ça, j'apprécie beaucoup. Concernant la France, je connais bien la France, ne serait-ce que parce que mon mari est d'origine française et nos enfants sont absolument bilingues. Les relations après 1918 entre nos deux nations ont été intenses. Et cette situation revient depuis 1989 avec la volonté de construire des relations solides qui s'appuient sur nos relations amicales très anciennes. Et dans les deux cas, les missions sont très intéressantes, car elles me permettent de mettre en valeur la République tchèque.
Alors justement, vous rappeliez que la République tchèque et la France ont eu dans le passé des liens très forts. Vous parliez évidemment du soutien de la France à la création de la Tchécoslovaquie en 1918. Évidemment, cette histoire a eu un petit peu des soubresauts puisqu'il y a eu Munich, les accords de Munich en 1938. Et puis, dans une période un petit peu plus récente, beaucoup plus proche de nous, il y a eu évidemment des espèces de désaccords, des incompréhensions, justement comme pendant la période de la présidence tournante de l'Union européenne. Comment est-ce que vous qualifieriez les relations France-République tchèque aujourd'hui ?
Au-delà de ces aspects historiques, il y a la réalité du monde aujourd'hui. Nous collaborons avec la France dans de nombreuses organisations multilatérales comme l'Union européenne, comme l'OTAN. Et la République tchèque et la France ont des approches identiques, notamment dans la question de l'énergie nucléaire. Il y a aussi des coopérations dans le secteur à forte valeur ajoutée, comme la recherche et le développement, l'industrie spatiale. Prague devient le siège du projet Galileo avec un grand soutien de la France. Les petites entreprises commencent à développer des liens qui sont encourageants. Et en général, le commerce entre les deux pays va battre un record en 2011. J'espère que ça sera confirmé par les statistiques. Et je ne veux pas oublier la culture avec de nombreux échanges et projets.
Le Premier ministre Petr Nečas était à Paris début janvier pour une visite de travail. On en a parlé d'ailleurs sur Radio Prague avec votre adjoint, Monsieur Tcherny. Il avait rencontré son homologue français, François Fillon. Un des enjeux justement des relations franco-tchèques à l'heure actuelle, c'est l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín, pour laquelle la société française Areva est en lice. Alors, où en est le dossier à l'heure actuelle ?
L'agrandissement de la centrale nucléaire de Temelín fait l'objet d'un appel d'offres international lancé en octobre 2011. Les propositions des différents groupes en compétition devraient être remises en juillet 2012 et le choix sera finalisé en 2013. Le processus de sélection est tout à fait transparent et les règles qui s'appliquent aux compétiteurs sont les mêmes. Et c'est très important pour la réputation de nos entreprises et aussi pour s'assurer de la qualité du travail qui sera réalisé, puisqu'on ne plaisante pas avec l'énergie nucléaire.
Dans ses vœux de la nouvelle année, au début de cette année 2012, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a émis le souhait que la future bibliothèque du quartier Pajol à Paris porte le nom de Václav Havel, l'ancien président et dramaturge tchèque qui est décédé fin décembre. Alors, où en sommes-nous de ce projet? On en a un petit peu parlé sur Radio Prague, mais pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup d'informations à ce sujet.
Après le décès de Václav Havel, le maire de Paris a été l'une des toutes premières personnalités françaises à venir à l'ambassade présenter ses condoléances. Et les Français savent la place très importante de Václav Havel dans la littérature du XXe siècle. Et c'est peut-être ce qui me touche le plus, de voir tant de gens différents m'expliquant des citations ou des écrits de l'ancien président qu'ils retiennent et utilisent comme des références de leur propre réflexion. Et le projet de baptiser une bibliothèque avec le nom de Václav Havel s'inscrit dans cette reconnaissance. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une idée et nous attendons des informations plus concrètes de la part du maire de Paris qui me les a promis pour qu'on puisse les communiquer à Prague. Évidemment, rien ne peut se faire sans l'accord des proches de Václav Havel.
En tout cas, c'est une belle idée. Alors justement, au moment du décès de Václav Havel, il y a eu évidemment des réactions partout dans le monde. Le monde a été extrêmement ému par cette disparition. Les journaux français en ont énormément parlé. Mais évidemment, vous avez dû avoir beaucoup plus, sans doute beaucoup plus senti encore les réactions des Français. Qu'est-ce qui vous a frappé justement dans leurs réactions?
C'était le nombre surtout, parce que plusieurs centaines de personnes ont témoigné de leur attachement à l'ancien président à l'ambassade tchèque à Paris. En signant notre livre de condoléances, il y a eu d'abord le témoignage émouvant des fleurs et des bougies qui ont été déposées immédiatement sur la grille du bâtiment. Et puis, lorsque nous avons ouvert l'ambassade, un flot de personnes est venu se recueillir devant la photo de Václav Havel et signer un livre de condoléances. Et à Prague, un millier d'invités ont assisté aux funérailles de l'ancien président et la France a choisi d'être représentée au plus haut niveau par le président français Nicolas Sarkozy. Et c'est un signe fort, une reconnaissance de la place unique qui occupe Václav Havel dans l'histoire du continent européen.
Justement, pour continuer sur ce sujet, dimanche 12 février, le cardinal André XXIII a donné une messe en la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc un haut lieu religieux et culturel de la France, à la mémoire de Václav Havel. C'est un événement, je dirais, plutôt rare, ou alors est-ce que c'est courant pour un chef de l'État étranger disparu?
Ah, vous me demandez si c'est une pratique fréquente. Je ne peux pas vous répondre à 100% sur ce point. Mais je crois que le cas de Václav Havel est un peu particulier. En 1918, le pays a été refondé par des intellectuels dont le président Masaryk était à la fois le symbole et le chef. Et c'est une constante, la population tchèque a besoin de réfléchir à ce qu'elle vit ou ce qu'elle subit. Et Václav Havel en est un exemple. Immédiatement après le décès de l'ancien président, le cardinal XXIII a présenté ses condoléances à la République tchèque et il a accepté ma proposition d'une messe célébrée à son intention. C'est une pratique qu'une messe soit dite à Notre-Dame à l'occasion des funérailles des chefs d'État français. La messe célébrée à l'intention de Václav Havel à Notre-Dame de Paris était donc marquée d'une grande dignité. Elle clôt, pour ainsi dire, 7 ans de funérailles en France. l'archevêque de Paris qui a décidé en coopération avec l'ambassade de la célébrer parfaitement en union avec ce que les Tchèques ont fait depuis le décès de l'ancien président.
Le 9 mars prochain doit se dérouler à Paris le forum franco-tchèque des jeunes entrepreneurs. Quels sont un peu les enjeux et les objectifs de ce forum ?
Ce forum entre dans le cadre du plan d'action qu'on a mentionné déjà. Il poursuit la création de forums franco-tchèques de jeunes dans différents domaines. Le premier a été la rencontre des jeunes diplomates. Cette année, nous avons décidé de rassembler des jeunes entrepreneurs le 9 mars à Paris. Ce forum a pour but de développer le lien entre les nouvelles générations d'entrepreneurs des deux pays. Et le but est concret, puisqu'il sera question de mise en réseau d'entreprises des deux pays appartenant à des secteurs professionnels identiques. Les jeunes en question auront moins de 40 ans. Ils seront chefs d'entreprise indépendants ou non, de préférence à la tête de petites et moyennes entreprises. La cible, c'est naturellement ceux qui ont un lien quelconque franco-tchèque. Et le programme, le débat sur le climat d'entreprendre dans nos pays respectifs et dans l'Europe, des visites de terrain et des rencontres bilatérales.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet www.radio.cz/fr. Au revoir. Nasledanou.